RMC, entre les poteaux,
Roxane Lacusca.
Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel apéro des poteaux. Focus aujourd'hui sur la 21e journée de Top 14. Vous en avez l'habitude maintenant, avant chaque journée, on vous présente tous les enjeux de quasiment tous les matchs. Et ce week-end, place au derby. On va se focaliser plus précisément sur les deux affiches du soir, celle de samedi entre Castres et Toulouse, et dimanche, le derby parisien entre le Racing et le Stade français. Et pour détailler ces deux affiches, je fais appel aux experts de la cellule rugby de RMC, la crème de la crème, Pierre Thévenet. Et vous entendez sourire, Wilfried Templier.
Salut. Salut. Non, mais c'est pour Salut, Pierre, merci. Je rigole.
L'expertise de Wilfried et ma bonne humeur pour contrebalancer un petit peu le
Ou l'inverse.
Personnage grognon.
Ouais. Ouais, un petit point sur
si
le
les gens savaient.
Enfin, un petit point sur le programme de cette 21e journée avant de débuter. Ce week-end de Top 14 démarrera par La Rochelle, UBB à 14h30 samedi, à 16h35 le multiplex dans lequel on retrouvera Clermont-Lyon, Bayonne-Pau, Montpellier-Perpignan et Montauban-Toulon. L'affiche du samedi soir, on le disait à l'instant, à 21h, ce sera Castres contre Toulouse et le choc du dimanche soir, enfin si on doit encore les appeler comme ça, opposera le Racing au Stade français à 21h05. Petit point classement juste avant de continuer, messieurs. Toulouse toujours en tête avec 71 points. Pau a repris la deuxième place à égalité de points avec le Stade français et l'UBB. Montpellier et Clermont ferment la marge du top 6. Et derrière, on retrouve le Racing en 7e position, suivi de Castres, La Rochelle, Bayonne, Toulon et Lyon. Et enfin, toujours les deux derniers, Perpignan 13e avec 23 points et Montauban qui clôture ce classement. On va démarrer avec toi, Wilfried, et l'affiche du samedi soir, Castres-Toulouse. Les Toulousains qui sortent d'une campagne de Champions Cup frustrante et ratée, éliminés en quart de finale par l'UBB le week-end dernier et en quête de confiance chez leurs voisins castrés. Comment s'est passée la semaine toulousaine, Wilfried ?
Compliqué, mal de tête hein, chez les Toulousains. Pas habitués déjà, j'ai envie de dire, à sortir dès les quarts de finale. Ils étaient sur 7 demi-finales de suite en Champions Cup. Il n'y en aura pas de 8e. De la manière dont ça s'est passé, hein, encore 30 points encaissés. Ça fait beaucoup sur pas mal de matchs. On va en parler importants à l'extérieur. Match de haut niveau où le Stade Toulousain encaisse beaucoup de points. Donc là, il y avait une reprise d'entraînement mardi qui a été annulée tout simplement. Je pense que ça a beaucoup tapé, hein. Ça a été très physique aussi ce quart de finale, donc il a fallu laisser les joueurs se régénérer et le staff visiblement a passé ce début de semaine à vraiment mettre les choses à plat parce qu'on se dit à Toulouse qu'il y a des choses qui ne vont pas. La campagne de Champions Cup finalement elle est logique et avec une défaite comme ça, puisqu'ils s'étaient déjà inclinés lors des matchs importants en poule à l'extérieur, à Glasgow, au Saracens, et obligés de se déplacer en quart de finale, eh bien, ils voient qu'il n'y a pas plus logique que de perdre ce quart de finale. Mais ils se disent qu'il y a d'autres matchs aussi. Hein. Je sais pas si vous vous souvenez quand même, mais tout au long de la saison, à Montpellier, à Bayonne, à Pau, on rajoute Glasgow, Saracens, à Bordeaux là maintenant, ça fait beaucoup dans une saison pour un géant comme ça. Donc ils se demandent ce qui se passe un peu ou ce qui passe pas.
Justement, d'ailleurs,
Clément Poitrono,
ouais, exactement, j'allais dire, tu as rencontré Clément Poitrono qui a pointé quelques difficultés rencontrées par le Stade Toulousain.
Il y a des choses qui sont récurrentes sur notre campagne européenne, sur les trois matchs perdus, notamment à l'extérieur. Donc voilà, quand on répète plusieurs fois les mêmes erreurs, ça veut dire que bon, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, un message qui ne passe pas. En tout cas, une lacune qu'il faut vite combler si on veut pouvoir exister au très haut niveau. Voilà.
Est-ce que Wilfried, il était redescendu en pression, Clément Poitrono ? Parce que il faut expliquer, ils vivent les matchs avec David Mellé à une intensité en tribune. On était à côté d'eux pour le Stade Toulousain, enfin l'Union Bordeaux-Bègles Stade Toulousain. C'est assez dingue l'influx nerveux qu'ils mettent sur un match. Ils sont debout les deux à hurler pendant les 80 minutes, c'est assez dingue.
Je sais pas si tous les staffs sont comme ça.
Mais
tous les... On peut pas les empêcher de vivre.
Ah non,
enfin,
bien sûr.
Voilà, c'est leur pas quotidien. C'est beaucoup de choses mises tout au long de l'année, d'investissements et que quand on arrive à ces moments-là, c'est très dur. Ils le vivent pleinement. J'étais joueur ça commence à faire plusieurs années, mais il y a pas si longtemps. Mais c'est vrai qu'ils sont debout,
des points de vie,
hors-jeu, machin, ouais. Voilà.
Et ce qui est drôle, c'est qu'à côté d'eux, ouais, les mecs sont très calmes. Il y a d'autres membres du staff qui ne bougent pas, et eux deux sont debout, ils hurlent.
Ouais. Mais ils prennent pour lui, en fait, ou pour les autres. Quoi. C'est... Mais bon, on m'a dit aussi dans l'entourage de Stade Toulousain que Ce que nous, on n'a peut-être pas vu, Pierre, c'est que ça branche, en fait, dans le public.
Ah,
ça
oui.
branche beaucoup. C'est ce qu'on m'a dit. Mm. On m'a dit que ça doit gasser hein, quand on perd un match de ce niveau-là, qu'il y a le public qui branche juste devant à 2 mètres.
Surtout à Bordeaux, on en a parlé de la rivalité entre les deux clubs. Hein,
oui, je pense que c'est très tendu. C'est peut-être le problème de certains stades hein, où c'est pas comme dans ton destination, où ils sont dans des cabines et tout. Là, ça,
au contact
voilà,
du public.
C'est très très proche au contact du public, donc c'est à double tranchant. Mais bon, ils se referont pas, hein, de toute façon, je pense. Ça fait longtemps que ça dure et voilà. Mais, c'est la semaine est compliquée. On a senti de la tension en fait. Hein, pour tout vous expliquer, on avait une conférence de presse donc jeudi après-midi qui était prévue vendredi, qui était avancée au jeudi. Normalement, on l'avait de cette conférence de presse, on a tout le casting. Là, jusqu'au moment de la conférence de presse, la communication ne savait pas quels étaient les joueurs qui allaient venir. Apparemment, ils ne savaient pas. Ça se décide en fin de semaine qui va jouer. Donc, il y a de la tension. On remet un peu d'émulation.
Ouais, ce
un
sont
peu
des petits signes de déstabilisation.
Ah oui. À Toulouse, oui. On sent que voilà. Et on a eu d'habitude, on a un joueur. Alors, c'est des détails pour les gens, mais on a un joueur par joueur. Et là, ils sont venus à trois joueurs en même temps, ce qui est moins bien pour la presse parce que souvent, quand ils parlent, les copains à côté, ils
se répètent
pas complètement. Ils se répètent un peu. Mais c'était inédit pour nous, ça Toulousain. Donc, on sent qu'il y a quelque chose qui,
c'est pas habituel.
Qui cloche, qui bouge, qui y a de la tension. Et il y a un derby qui arrive en plus. Quoi. Donc voilà.
On va en parler de ce derby. Et Clément Poitrenaud, d'ailleurs, a notamment pointé du doigt quelques petits points à améliorer. On écoute l'entraîneur des arrières.
Discipline, notre capacité à marquer quand on arrive dans la zone de marque. Et puis aussi, je pense, un manque de créativité offensive, ce qui faisait plutôt notre force quand même ces dernières années, où là on s'est aperçu qu'avec une très bonne défense de Bordeaux, encore une fois, on n'a pas su trouver forcément toujours des solutions. Donc voilà, faire le point sur tout ça.
Quand il parle de création offensive, il vise quelqu'un en particulier, Wilfried ?
Non, pas que Antoine Dupont, je te vois venir. Non, mais c'est vrai que c'est un sujet parce que c'est Antoine Dupont et parce que nous, on n'est pas très original au niveau de la presse. On se penche toujours, on le suit tout le temps, il est scruté, évidemment. Mais parce que Antoine Dupont, quand il ne traverse pas le terrain,
On est habitué à l'exceptionnel, donc quand il est un peu plus ordinaire, ça nous fait un peu bizarre.
Clément Poitrenaud a dit c'est le syndrome Michalak. C'est quand vous êtes un peu moins bon, on dit que vous êtes médiocre.
C'est un peu le jeu de toutes les grandes stars de leur discipline.
Ouais. On en a fait un article sur notre site et appli que vous pouvez retrouver sur Antoine Dupont parce que je me suis penché un peu dessus justement quand même. On n'oublie pas qu'il revient d'une deuxième blessure, grave blessure au genou, que depuis 4 mois et demi, il a joué 16 matchs, qu'il a fait un tournoi destination, qui est usant, il le disait lui-même physiquement et mentalement. Mais quand on regarde les chiffres un petit peu, même si c'est... c'est succinct, mais sur il fait un peu moins de défenseurs battus. Alors, vous allez me dire, c'est 51 au lieu de 57. Moins de passes décisives, 17 au lieu de 20. Moins de mètres parcourus ballon en main, 671 au lieu de 887. Et surtout, je trouve que c'est assez important, Pierre, mais tu me diras, 79% de plaquage au lieu de 88, on descend d'un cran quand même. Hein,
ouais, bien sûr.
En défense, qui sont point fort normalement.
Et ce qui est peut-être un petit peu inquiétant, c'est qu'il ne veut pas du tout changer son jeu et même je trouve qu'il insiste un peu trop dans ce côté porter le ballon. On l'a vu à Bordeaux, à chaque ruck, il relève le ballon, il regarde à gauche, à droite, il part dans le mauvais sens, il revient. Ouais. Et avant, où ça crée un déséquilibre parce qu'il cassait systématiquement les deux premiers plaquages, il ne les casse plus tout le temps. Ces plaquages, ça lui arrive quand même, hein, mais il a plus cette force physique et il ne simplifie pas son jeu pour autant. Donc,
Poitrenaud a dit qu'il n'a pas toujours fait les choix judicieux, il l'a dit, hein, mais il nous a tellement sauvés parfois.
Il y a un
autre classement que j'ai vu sur le site de l'EPCR, donc de l'instance européenne. J'ai comparé ça avec la saison stratosphérique qu'il a fait en 23-24 avec le doublé du Stade Toulousain, la finale face au Leinster qu'il a fait. Il était en ballon, il avait des scores en fait d'ailier ou de troisième ligne. Ballon joué à la main, il était premier. Franchissement, il était deuxième. Vous imaginez pour un demi de mêlée. Défenseur battu, il était troisième. Mètre parcouru, deuxième pour un demi de mêlée. Passe après contact, premier. Et turnover gagné. Premier devant les troisièmes lignes. Et bien tout ce que je viens de vous dire dans toutes les catégories, il y a les cinq premiers à chaque fois, il a disparu de toutes ces catégories. Alors il est peut-être juste derrière parce qu'on est avec les cinq premiers, mais il n'est plus dans les c'est bon, ça reste des chiffres, vous allez me dire, mais quand même, je pense que c'est une petite indication qu'Antoine Dupont doit encore piocher un peu peut-être pour revenir à son meilleur niveau et ou peut-être à beaucoup jouer et le Stade Toulousain a 10 semaines jusqu'à la demi-finale, 6 matchs avec 12 points d'avance. Donc ils vont pouvoir gérer aussi. Mais c'est la difficulté entre gérer l'avance qu'ils ont et tout, et de se remettre en... Voilà, se remettre en selle. À un moment, il faut réenclencher, même s'il n'y a pas le feu. Vous l'avez compris, 12 points d'avance en top 14, ça va. Mais le rendez-vous de Castres est très important.
Bien sûr. D'ailleurs, avant de se plonger sur Castres précisément, Dupont jouera ou jouera pas sur le banc, pas sur le banc.
Il est remplaçant.
Remplaçant, très bien. Ça nous fait un petit
oui,
teasing.
Oui, il est remplaçant, toi,
de cette composition. Alors Castres, justement, venons-y. C'est-à-dire que c'est un déplacement qui est pas des plus faciles pour Toulouse, Wilfried, dans l'histoire de ces derbies.
Bon, c'est un vrai derby. Enfin, les Toulousains disent non, il n'y a pas de derby. Les Castres disent non. Le boulanger nous en parle. Tout le monde nous en parle. Baptiste Delaporte m'a dit cette semaine, je lui ai dit, mais entre de qualifier dans les 6 ou battre Toulouse, c'est quoi que tu préfères? Battre Toulouse, il m'a dit.
Ah oui.
Donc, j'ai peut-être dit dans les 8, dans le championnat, ou dans les 6, je ne sais plus. Mais bon, il m'a dit battre Toulouse. Hein, battre Toulouse. Ah oui, 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 c'est... Ah oui. Là-bas, ils nous disent tout le temps, le boulanger nous en parle, le boucher nous en parle. Donc, bon. C'est vrai, tu l'as dit, ils n'aiment pas trop les Toulousains. Dernière victoire à Castres 2019 quand même, hein. 5 victoires de suite, il y en a une de moins avec le Covid, mais depuis Toulouse 26-24, 19-13, 27-17, 31-23, 28-23, il n'y arrive pas. C'était là en 2019 la fin de série pour Christophe Furios qui allait quitter Castres. C'était le début d'une mauvaise série d'ailleurs parce que Castres n'allait pas se qualifier et Toulouse c'était le premier des 5 boucliers qu'ils allaient engranger. Mais ça commence à faire longtemps. Hein. Et puis même, celle d'avant, c'était en 2015. Donc ça fait une victoire sur les 9 derniers Castres-Stade Toulousain. C'est pour vous dire si Pierre Fabre n'est pas un stade propice à Toulouse. Le CO, qui espère toujours se qualifier, mais qui aussi, c'est une mauvaise passe, une victoire sur les 4 derniers matchs.
Ce que j'allais dire, c'est qu'en plus, ouais. Castres a aussi besoin de se rassurer quand même ce week-end. Oui. Et quoi mieux pour se rassurer que de battre Toulouse?
Oui, franchement, s'ils battent pas, si c'est le match bascule pour Castres sur le printemps, là, sur les 5 derniers derrière, pour espérer être dans les 6. Si ça perd à domicile encore une fois, voilà, ils restent sur une défaite à domicile contre La Rochelle. Ils ont perdu le Racing, La Rochelle, à l'UBB. Ouais. Ils ont battu Montauban. Vous savez tout ce qu'on dit sur Montauban, sans leur manquer de respect, mais voilà, c'est pas référent pour Castres. Donc,
d'autant
voilà,
que
ils ont fait un très bon match à Northampton, mais bon, ils attendent des choses, les Castrés.
Ouais, d'autant que sur les 5 matchs qu'ils auront à jouer ensuite, ils se déplacent quand même 3 fois à Lyon, à Pau, à Perpignan, et ils reçoivent Montpellier et Toulon. Bon, c'est pas le parcours le plus simple, même si on sait, on le répète toutes les semaines, qu'aucun match n'est facile en top 14. Mais ils ont pas, ils vont pas à Montauban, par exemple, où ils reçoivent pas Montauban, où on sait que c'est 5 points d'office ou des choses comme ça, quoi. Donc, c'est effectivement un match à remporter. Est-ce que tu as les compos, mon cher Wilfried ?
Oui. Alors, du côté de Castres, où on n'aura pas Zaran Tonello, évidemment, le talonneur, et... Pierre le connaît bien.
Voité, caravalez-vous.
Oh là là, quel phénomène en plus.
Ah, incroyable.
Touché à la cheville.
Je pensais que t'allais dire que c'était bien comment Pierre le prononçait.
Non mais à Northampton.
Très bien.
À Northampton, c'était incroyable.
Beaucoup plus que Denis, j'imagine.
Offensivement, ah ouais. C'est un exceptionnel.
Hein.
Il a une capacité à casser les plaquages. En défense,
les
parfois,
appuis,
c'est un petit peu plus aléatoire.
Oui,
mais balle en main, c'est...
Ce mec en un contre un, c'est un cauchemar. Hein,
Et puis quand...
Bon, bah, il n'est pas là.
Ouais. Bah, super.
Donc,
ça
première ligne,
ça sera pas un joueur à suivre.
Walker, Durand, Corato. Deuxième ligne, Ducas, Van Verberg. Troisième ligne, donc, Baptiste Delaporte est capitaine, puisque Babio est forfait avec Ramoto Taboua. Ramoto, j'avais mis un haut de trop. Ramoto Taboua, avec Ardron en 8. Arata et Hervé qui formeront la charnière. Donc, tu l'as dit, Vargas à l'aile gauche, Ambadiang à l'aile droite. Une paire de centres, Goudjou, Botitou et Palis à l'arrière. Le banc des remplaçants, Colonna, Guerwa, Marava, Baptiste Kopp, Fernandez, Kokadji, Chabouni et Will Collier, le pilier anglais. Il y a du lourd quand même sur le banc castré. Quand je vois rien que ces trois quarts, Fernandez, Kokadji, Chabouni, c'est des titulaires en puissance.
Très bien.
Veux-tu que j'enchaîne avec la compo toulousaine ?
Mais vas-y. L'avantage avec les derbys, c'est que le correspondant qui parle d'un club parle aussi de l'autre.
Et ce qui est bien avec les compos toulousaines, quand ils font tourner, c'est que, écoutez Wilfried.
Non, mais ils ne font pas tourner.
Oui,
c'est
oui.
Non, mais
on pouvait se dire le 6 jours après la demi, après le quart perdu. En fait, tu as une équipe.
Bah oui, mais solide.
Parce qu'il... Ouais, assez solide. Ça fait moins tourner qu'au Stade français, on va en parler. la première ligne, Baye, Marchand et Paul Malaise. Deuxième ligne, Elias Meafou. Banos et Brennan en troisième ligne, Roumat en 8. Et on rappelle qu'Anthony Jelon a certainement la saison terminée, puisqu'il devrait se faire opérer de l'épaule, hein, luxation. Hein, belle luxation, nous a dit Jérôme Casalbou. Belle luxation, effectivement. Il va se faire poser une butée. Normalement, parce que c'est la, juste pour la précision, pour le supporter du Stade Toulousain, c'était la même durée d'absence s'il remusclait l'épaule ou s'il se faisait opérer. On met une butée au niveau de l'épaule. Pour, c'est plus sécur, entre guillemets, surtout avec le jeu d'Anthony Jelon. Mais il se pourrait que normalement.
Tout en évitement.
Voilà. S'il revient, enfin, vous imaginez la dynamique d'une équipe en phase finale alors que lui revient juste, ça devrait être trop juste. Et c'est une lourde perte pour le Stade Toulousain, évidemment. Roumat, donc, en, pour le remplacer en 8. La charnière Graou, Ntamack, aux ailes Delib et Kinghorn, au centre Chocobarès et Coste, à l'arrière Remu, le banc des remplaçants Cramon, Bertrand, Flamand, Bonnard Martin, Théo Ntamack, Dupont, Pouzelgue et David Aynou.
Pas mal tout ça. Est-ce que tu vois
il
les...
Il manque Netti, Colombe, Castro, Ferreira, donc Jelonge, Capozzo et Malia.
Et Gourgue et Ramos. Ah oui, non, et pardon, tu parlais des blessés. Parce que Gourgue et Ramos sont...
Au repos.
Oui, après il y a des gens qui sont mis au repos, évidemment, tous ceux que j'ai pas cités.
Un petit pronostic pour ce derby, messieurs.
C'est dur.
Oh, c'est dur.
Ah ouais.
C'est dur parce que la capacité de réaction de Toulouse. Non, mais je sens les Toulousains dans les cordes quand même. Donc, mais les Castrés.
Les Castrés ont plus
pas
à jouer.
Des garanties. Oui, ont plus à jouer. Mais ces dernières semaines, quelle Castres, en fait. Et c'est ce qu'a dit Xavier Sadourny. C'est ce qu'on lui a dit. Xavier Sadourny, quoi. C'est vrai qu'ils doivent être plus disciplinés. Ils prennent trop de jaunes. Malgré tout, ils arrivent à mettre des pétards offensifs. Mais tant fort, tant faible, ils ont du mal à les gérer. Donc,
mais c'est vrai que si celui-là, tu le perds et que par exemple, Clermont et Racing font le boulot chez eux, tu vas te retrouver à 8 et 10 points du top 6. Donc,
moi,
je pense que le
peut-être
Castres
à 51-49 Castres.
Oui, voilà. On va dire
mais
ça.
Moi, je voyais bien les Toulousains capables d'aller gagner à l'UBB, donc en mode guerrier, devant et tout. Et voilà. C'est pour ça que je ne veux pas faire des pronostics, ma chère.
Oui, Wilfried déteste les pronostics.
Ça sera plus simple
sur le
Racing Stade
Français.
Il a
peur que vous le preniez pour un mauvais journaliste s'il ne donne pas les
pronostics. Non, c'est pas ça, mais comment veux-tu ? C'est une pièce en l'air, en fait.
Bien sûr. Exactement. Bon, ouais, le match sera.
Moi, je te le dis, ça va se passer comme ça. Oui, bien sûr.
Bah, et Denis Charvet. C'est Denis.
Match à suivre
toute
samedi
ressemblance
soir.
Avec
samedi soir à 21h avec, vous l'aurez compris, Wilfried Templier. Autre rencontre à laquelle on va s'intéresser, mon cher Pierre, c'est Racing Stade Français avec une nouvelle fois une affiche du dimanche soir qui va être quand même sacrément tronquée puisque les Parisiens vont faire tourner.
Alors, on aurait aimé s'y intéresser à cette affiche. Non mais
j'ai l'impression que toutes les semaines on dit la même chose.
Non, mais
à moins
que ce soit un grand coup de bluff de la part du Stade Français. On n'a pas encore les compos officiels, à moins que ce soit le plus grand tour de magie.
Comme on enregistre le vendredi, on est 48 heures avant, on n'a pas encore la compo.
Peut-être que le Stade Français se joue de tout le monde.
Mais selon les infos de Pierre Thévenet,
selon mes infos, selon l'entraînement de ce matin, quand Yann Chapuis a dit allez les 23 qui jouent, venez avec moi, et que c'était les 23 qu'on avait vus avant. Bon, a priori, il devrait y avoir un gros turnover de la part du Stade Français sur la pelouse du Racing par rapport à l'équipe qui a joué Clermont. Dans le 15 de départ de l'équipe qui a battu Clermont, on devrait avoir 11 à 13 changements sur ces équipes titulaires. Pas de Barré, de Carbonel, d'Akouaka, Briat, Alaifonoua, Nicotera, Jérémy Ward. Ça, c'est des joueurs qui ne devraient pas être sur la feuille sur la pelouse de Nanterre. Pourquoi, va me dire
But why?
Pourquoi mais en fait, c'est un peu parce qu'ils peuvent, en fait. Parce qu'ils se sont... Eux, leur réflexion, c'est de dire, en fait, on s'est donné l'occasion de pouvoir le faire en ayant ces 9 points d'avance sur la 7e place. On va dire toutes les limites qu'a ce raisonnement, mais ils ont un matelas de 9 points sur le Racing. Ils reçoivent Pau samedi prochain à 14h30. Donc, eux,
oui,
leur
6
logique...
6
jours après. Leur logique, c'est de dire, s'ils prennent 5 points à Montauban et qu'ils gagnent contre Pau, Lyon et Bayonne, ça fait 17 points. Et c'est 17 points qui devraient suffire à être, je ne sais pas où, dans les 6, dans les 4 ou dans les 2. C'est un peu petit bras comme projet.
Ils ont déjà
projet.
Gagné domicile sur leurs 3 matchs.
Non, là, tu entends le Toulousain.
Je te donne la stratégie.
Non, mais... Je ne comprends pas parce qu'il y a autant on peut entendre des managers avec le calendrier, la coupe, la Champions Cup. C'est pas possible d'être partout, que l'UBB fasse tourner, que Toulouse. Mais ils n'ont pas joué le week-end dernier.
Non,
ça,
ils n'ont pas joué.
Ils
n'ont
pas joué. Ils ont deux matchs.
Un week-end de repos.
Oui, ils n'ont pas joué la semaine dernière. Et il y a 15 jours,
face aux
Dragons, c'était une équipe B.
Les spectateurs, Pierre. Qu'est-ce qu'ils veulent voir?
Je suis d'accord avec toi.
Non,
mais moi, évidemment que je suis d'accord avec toi. Surtout qu'il y a 2 semaines face aux Dragons, ils ont joué, mais c'était à peu près la même équipe qu'on va voir dimanche qui a joué. C'est-à-dire une équipe bis. Donc, on a demandé à Morgan Parra, est-ce qu'il va y voir... Enfin, pourquoi ce choix de rotation? Est-ce que c'est des calculs? Et j'ai l'impression qu'on regarde par lui-même n'était pas tout à fait clair sur la stratégie. Écoutez-le.
C'est pas question de cibler. Bien sûr, il y a un plan de route entre guillemets, mais il y a des joueurs qui ont besoin de reprendre du temps de jeu. On a besoin de tout le monde. On sait aujourd'hui, on s'est appuyé sur beaucoup de joueurs tout au long de la saison. Donc ça, c'est important aussi de faire confiance aux jeunes et d'avoir une philosophie sur les 6 matchs, d'essayer, voilà, bien sûr, de un peu de turnover. Mais quand on tourne quelqu'un, c'est pas de dire on lâche le match. Loin de là.
Voilà, c'est un peu ça l'idée, il faut retenir.
Il y a la jurisprudence MHR, hein, où on s'était ému que le MHR ne mette pas à
et
Toulouse.
Et au final, ils ont accroché Toulouse.
Ils ont accroché.
Non, mais
Toulouse n'a pas pris de bonus offensif et le MHR, non, mais ils étaient contents de la prestation des mecs et tout.
Non, mais en fait, eux, leur idée, c'est de dire. Et c'est pour ça que tu ne peux pas vraiment leur opposer d'argument, parce que eux, ce qu'ils te disent, c'est. Non, mais les joueurs qu'on envoie, on les envoie pour gagner. À partir du moment où ils te disent ça, à part dire, non, mais vous envoyez des mecs qui ne jouent pas d'habitude, si eux, ils te disent, notre stratégie, c'est pas du tout de la chute.
Après, ils vont pas dire l'inverse.
Gagner.
Ils vont pas dire.
C'est pour ça que
on
je
y va
dis,
pour
tu peux pas leur opposer grand chose.
Oui, mais vous envoyez pas. Mais tu leur dis, vous envoyez pas votre meilleure équipe.
Exactement. C'est ce que j'ai demandé à Noah Néné qu'on peut écouter. Je lui ai dit, Noah Néné qui va être titulaire au centre du terrain pour son retour. Il s'était blessé à Toulon.
Il est titulaire et tu lui dis, ouais, vous envoyez pas votre meilleure équipe.
Non, mais je lui ai dit, Noah, est-ce que c'est frustrant de ne pas aller avec vos meilleures armes au Racing 92? Et écoutez, on est un peu dans le même registre que ce que nous disait Morgan Parra.
C'est pas frustrant parce que, comme je l'ai dit, l'équipe est sur le papier, elle est très bonne. Après, il y a aussi des matchs à domicile qui sont très importants, donc il faut faire souffler 2-3 mecs qui ont beaucoup enchaîné. Il y en a 2-3 qui sont blessés qui vont venir la semaine prochaine, dans 2 semaines. Donc, non, c'est important de faire souffler les mecs, mais comme je l'ai dit, là, l'équipe elle est compétitive, donc il y a moyen de faire quelque chose là-bas.
Voilà, t'as compris Wilfried, le match de Pau la semaine prochaine, c'est l'objectif. Mais je suis d'accord avec toi pour l'image.
Le problème, c'est
pourri.
Que les gens qui payent au stade, les gens qui payent un abonnement, les gens qui
payent
voilà, un diffuseur qui met des millions, des centaines de millions d'euros, ils ont envie de voir les meilleurs joueurs contre les meilleurs joueurs dans l'affiche qui est mise en avant du rugby français le dimanche soir.
Surtout quand c'est une affiche avec des équipes qui se valent et qui peut être une affiche à l'aller. C'était un match 20-20, il n'y avait pas des grandes envolées, mais
c'était
un match
qui se
tendu. Et les affrontements Stade Français Racing, il n'y a eu que 3 victoires à domicile d'un des deux clubs sur les 10 derniers matchs. Donc c'est des affiches où le Stade Français va souvent gagner au Racing en envoyant sa grosse équipe. Et donc c'est pour ça qu'on se dit, mais
Pierre,
quel est le
Stade Français n'a pas joué le week-end dernier à 2 matchs et ne rejoue pas le week-end d'après.
Et puis moi, je me pose une question, c'est est-ce que tu n'as pas aussi envie d'être tranquille plus vite en fait? Est-ce que tu n'as pas envie de reposer tes mecs en vue de phase finale? Tu t'assures une vie, enfin, t'essayes de gagner au Racing. Imagine, t'arrives à le faire. Derrière,
bien
ça
sûr.
Veut dire que sur tes 2 derniers matchs, tu peux un peu plus faire tourner.
On verra qui sera deuxième. Ça joue souvent à 1 point. Mais peut-être qu'ils le seront. On fera le bilan. Mais ça joue. Vous savez que ça se joue à 1 point.
Non, mais t'imagines que.
Deuxième, troisième, quatrième.
Et t'imagines que les cadres du Stade Français, ils n'auront pas joué pendant 1 mois. Léo Barré, Louis Carbonel, ils n'ont pas joué en challenge. Leur dernier match, c'était 29 mars contre Clermont. Ils vont rejouer le 25 avril contre Pau. On se dit, mais ils ont eu 1 mois de pause, tous les cadres du Stade Français. Donc après, ils savent
une stratégie pour aller au bout, soulever le bouclier.
Et en plus, la victoire contre Pau, elle n'est pas acquise.
Pas dit que c'était acquis du tout. Mais oui, en tout cas, ils ont basé comme ça, en se disant, c'est, si on gagne, si on bat Pau, disons que personne ne veut faire des calculs. Le Colazo nous a dit on va tout jouer, l'entraîneur du Racing, on va tout jouer à fond parce que là ça sert à rien de compter sur les autres, mais aussi parce qu'ils ont 9 points de retard. Le Stade Français, on sent que c'est un peu plus calculé. On se dit, lui il risque de perdre là-bas, moi je vais gagner là-bas. Si ça marche, tant mieux, mais c'est vrai que dans l'idée c'est très dommage parce qu'on avait potentiellement une belle affiche avec une Paris La Défense Arena avec un peu plus de 15 000 personnes, donc un peu plus rempli que d'habitude. Tu peux vendre un peu ton derby et en fait ça va faire pchit parce que le Racing risque de dérouler quoi.
Effectivement, c'est un peu dommage, surtout comme tu dis Wilfried, pour les supporters. Côté Racing, on en voit par contre la grosse équipe.
Ah bah, eux, ils n'ont pas le choix. Eux, pour le coup, ils ont ce petit retard. Et ce qui est terrible pour le Racing, c'est qu'ils ont le même bilan que le Stade Français. 11 victoires, 1 nul, 8 défaites. Mais ils ont pris 9 points de bonus de moins que le Stade Français. C'est ça qui fait qu'ils sont aussi loin. Ils sont 7e. On a beaucoup parlé du calendrier hyper avantageux du Racing, où ils reçoivent 4 fois et ils vont à Montauban. Donc eux, ils doivent faire le boulot. Ils doivent gagner leur match à la maison. Donc évidemment, on aura la grosse équipe avec Demba Bamba, avec Nathan Hughes, avec Carbono Gibert à la charnière, avec Gaël Ficou et Joey Manu au centre, avec Max Spring à l'arrière. Il n'y a évidemment pas d'impasse pour le Racing parce que ce derby est très important pour eux. Et en plus, eux ont joué un peu plus le jeu médiatique du derby avec Patrice Collazo qui a répondu à Louis Carbonel après le match aller qui avait dit que le Racing jouait pas bien, que c'est pas une équipe qui envoyait du beau rugby. Et Patrice Collazo nous a dit ah mais on a beaucoup écouté, on a vraiment essayé de travailler, de progresser pour leur faire plaisir sur ce match retour. Donc on se dit c'est sympa, il y a un peu de un peu de fight, et en fait le Stade Français va envoyer une équipe B. Donc voilà, c'est un peu dommage, mais en tout cas oui, le Racing va la jouer à fond cette rencontre parce que ils ont besoin de points.
Très bien.
Du coup tu donnes une demi compo quoi ou...
Bah on l'a pas, je l'ai pas officiellement.
Il a pas assez travaillé pour avoir le reste de la composition.
Non, ah oui, pardon, oui, c'est dimanche, autant pour moi.
Oui.
Là, excusez-moi.
Oui, non, c'est pas qu'il a pas assez travaillé, c'est une vanne, évidemment. Quand même. Je dis ça parce que c'est le chef qui nous écoute, car j'essaye d'être...
C'est comme ça, c'est le jeu.
Petite info, fun fact, le match sera filmé par un drone.
Oui. Pour la première fois dans le rugby, il y aura un drone qui va. Ils ont le droit de le faire parce que le toit est fermé à Paris La Défense Arena et que donc ils ne sont pas soumis aux différentes réglementations de drones qui survoleraient la ville, tout ça. Donc c'est dans l'enceinte fermée, donc ils ont le droit de le faire. Ils n'ont pas du tout voulu communiquer le diffuseur Canal Plus sur cette opération, donc on verra ce que ça donne. Mais ça avait été un franc succès aux Jeux Olympiques d'hiver, donc sans doute que ça va apporter. Une petite dimension supplémentaire. Tous les joueurs nous ont dit heureusement que Joris Segond est parti, l'ouvreur du Stade Français, qui aurait été bien capable d'aller dénicher le drone avec une grande chandelle. On a demandé à Max Spring, il a dit non mais moi vous inquiétez pas, mais je tape pas assez haut pour aller toucher les drones dans le ciel de Paris La Défense Arena. Mais voilà, en tout cas il y aura une nouvelle expérience spectateur.
À défaut de voir.
On sait jamais,
une équipe en face, forcément très, très compétitive. Du coup, en termes de pronostic, là, j'imagine que vous êtes tous les deux plutôt côté Racing.
Bah, la logique voudrait que.
Et Wilfried va tempérer.
C'était bien la
oui,
logique.
Non,
que...
mais.
Non, parce qu'il y a toujours des surprises dans ces matchs, à domicile, extérieur et tout. Mais bon, sur le papier, même si je parlais de la jurisprudence MHR, Toulouse avait gagné quand même. Hein,
bien
donc,
sûr. On pourrait avoir
Racing
une...
en a bien plus besoin que le Stade Français pour rentrer dans les 6, d'ailleurs.
Oui, bien sûr. Et on va avoir des joueurs qu'on voit très peu. Botta en deuxième ligne, Ryan Chapuis capitaine en numéro 6, Makalou va faire son retour, Abadi Foursan à la charnière, Ezeala au centre... Charles Lallois et Lester Etienne sur les ailes et Mathis Thibault, dont j'en parlerai tout à l'heure, à l'arrière. Donc voilà, c'est des joueurs qu'on voit moins dans cette équipe de France, mais qui sont plutôt habitués des joutes de top 14.
Ça reste une équipe quand même assez solide sur le papier. Match, donc, vous l'aurez compris, à suivre dimanche soir, 21h05, ça sera le choc de cette 21e journée. On va passer, messieurs, à vos deuxièmes affiches à suivre. Pierre, puisque tu as la main.
Bah, Bayonne-Pau, quand même, pour cette lutte pour le top 2, pardon, en partant plutôt de la section paloise que de l'aviron bayonnais qui,
oui.
J'ai peur qu'ils jouent plus grand-chose dans cette fin de saison, les bayonnais.
Alors, le top 2, ça va être compliqué.
Non, mais même s'ils sont qu'à 7 points du top 6, les bayonnais. Mais bon, c'est vrai que Pau a cette deuxième place pour l'instant, officiellement, à égalité de points avec le Stade Français et Bordeaux. Et là, ils ont deux matchs que je trouve importants à Bayonne puis au Stade Français pour voir un peu si ce qu'ils ont dans le ventre en vue des phases finales, parce que j'espère pour eux qu'ils seront dans les 6, même si Wilfried est persuadé que je veux la perte de la section paloise, c'est pas vrai. Mais ils ont 3 réceptions qui sont plutôt à leur portée. Sur le papier, c'est clairement Montauban et Castres, mais ils vont voyager à Bayonne, au Stade Français et à Montpellier. C'est 3 matchs où ils risquent de perdre des plumes, et sur les derniers déplacements, ça a été compliqué pour les Palois. Ils prennent 26 à La Rochelle, 40-24 à Perpignan, quasiment 60 points à Toulouse aussi. Donc, Pau est plus sur la dynamique, en tout cas incroyable, qu'ils avaient au début de saison, mais ce qui est normal au vu de leur effectif. Et même contre le Racing 92, la dernière journée où ils s'en sortent à la fin, mais le Racing ne produit pas grand-chose, mais ils se heurtent.
Plus compliqué.
Ils sont encore deuxième quand même. Hein.
Non, mais bien sûr, c'est pour ça que je dis ça.
J'aime bien, ça joue un peu de choses. Mais...
Ils sont deuxième, mais il y a Montpellier que 2 points derrière à la 5e place. Et je trouve que ce serait dur pour eux de les voir sortir du top 4, au moins de pas
qu'ils n'aient
pas leur demi-finale à domicile vu la saison. Mais je pense que pour ça, il faudra peut-être aller chercher des points un peu à l'extérieur. Et comme ce sera compliqué au Stade Français et à Montpellier, ça peut être dès ce week-end à Bayonne. Donc match très intéressant entre ces deux équipes.
On a les compos cette fois-ci. Pierre a travaillé et il a les compos de Bayonne.
Laisse-moi juste les retrouver. C'est bon, je les ai. Côté aviron bayonnais, on aura Andy Bordelais, Bosch et Tagui en première ligne. Ituria Paolos en deuxième. Fischer, Capilla, Chouznou pour la troisième ligne de l'aviron bayonnais. Baptiste Germain à la charnière avec Tom Spring, titulaire à l'ouverture. Ça a été déjà le cas cette saison. Tuila Guimartoc au centre et puis Thibert Guien, Erwin Artegaray-Ozel et Orabé à l'arrière. Côté palois, pas de Grégoire Harfeuille qui a déjà fait des misères aux Sevens. Il est avec l'équipe de France ce week-end du côté de Hong Kong. Sur son premier ballon touché, il a mis un essai de 100 mètres. Elle est liée tricolore. Donc...
Quel joueur
franchement, j'adore Grégoire Harfeuille. Du coup, sur les ailes, on aura Atisogbe et Grand Didier avec Jack Maddox à l'arrière. C'est pas mal non plus. Broboire et Gaëton au centre sont titulaires tous les deux. Robson et Despérez à la charnière. Et pour le paquet d'avant, Kolasvili, Montoya, Laklaya, Oradou Maxima en deuxième ligne, Zegger, Kredos, Gorgadze. Vous avez compris, c'est la très grosse équipe pour la section paloise sur cette pelouse du stade Jean Daugé à Bayeux.
Important de voir si Pau est capable d'aller
gagner là-bas.
Voilà. Ouais, d'aller gagner là-bas, ouais, c'est vrai. Parce que tu as parlé des dynamiques et c'est un peu, ils sont mieux que Castres au classement, mais c'est avant d'aller au Stade Français en plus, hein, dans la foulée. C'est
très important. Et ils envoient la grosse équipe. Ils ont deux déplacements de suite, ensuite ils auront deux réceptions de suite. Donc s'ils arrivent à prendre des points sur un de ces deux déplacements, ils seront tout de suite en position beaucoup plus favorable pour cette lutte pour le top 2, qui, je trouve, pour des équipes comme Montpellier, le Stade Français et Pau, serait très très important d'être dans ce top 2 pour économiser de l'énergie dans ces phases finales.
Ça contredirait ta boule de cristal.
Ouais. Donc ça te ferait plaisir.
C'est un petit jeu, c'est tout.
Derby des Pyrénées-Atlantiques, donc à retrouver à 16h35 dans le multiplex. Wilfried, quelle est ton affiche à suivre ce week-end ?
La Rochelle.
Non, mais c'est intéressant, La Rochelle-Pau, parce que. La Rochelle-UBB, pardon. Ouais, j'étais sur Pau. La Rochelle-UBB, parce que c'est compliqué pour Bordeaux, parce qu'il y a tout seigneur, tout honneur quand même. Bordeaux qualifié pour les demi-finales. Deux rendez-vous avant de recevoir Basse en demi à La Rochelle. Donc, surtout, 6 jours après la bagarre qu'il y a eu, la bataille qu'il y a eu à Chaban, 6 jours après, ils sont déjà. Le premier match à 14h30. Il est pour eux et une semaine après ils reçoivent Montpellier une semaine avant leur demi-finale on connaît l'épaisseur de Montpellier
on l'avait dit, hein, Bordeaux s'ils ne sont pas dans les deux, c'est 13 matchs consécutifs jusqu'à la finale du top 14. Eux pour le coup, le calendrier c'est
autant on se disait que c'était compliqué de, enfin voilà, on n'était pas content que le Stade Français fasse tourner autant.
Eux, on peut comprendre.
Oui, c'est un peu compréhensible.
On comprend, ouais. Mais c'est pas, je sais pas qu'est-ce qui est le mieux à viser, un match à La Rochelle ou la réception de Montpellier, c'est pas écrit, hein, pour le bébé, même si et on va pouvoir enchaîner avec ça, mais il y a un seul joueur qui a joué dimanche dernier, qui sera dans le 15 de départ, c'est Rayassi en fait. Sinon, il y a 14 changements. Donc, on va vous les donner.
Huberthier est là aussi. Il est décalé au centre, mais Huberthier est là.
Ah oui, bien joué. Il est décalé au centre. Donc, il y en a deux.
Tu vois qu'il a bossé finalement.
Ouais, tu vois qu'il est attentif.
Et
bravo,
Gazzotti aussi, décalé en 6, mais il est là toujours. Ça fait 3.
Allez. Alors, tu sais quoi ? Je le vends. Je ne sais pas si je le balance. Mais Nicolas Paul Orsi nous a dit qu'il n'y a que Rayassi qui va garder sa place dans le 15 de départ. Moi, je suis passé sur l'équipe. J'ai vu Rayassi comme ça. Voilà, mais on le balance pour l'ensemble de son œuvre, Nicolas Paul Orsi.
Donc, trois joueurs conservent leur place dans le 15 de départ.
Donc, la première ligne, Boniface, Barlow, Falatea. Intéressant le retour de Falatea, parce qu'on a l'impression qu'il a complètement disparu.
On l'a vu à l'échauffement la semaine dernière, on s'est dit. Oh,
ouais, Falatea, mais c'est Pili Falatea quand même. Il se plaçait là à une époque en pilier droit à l'UBB. Quoi. Donc, ça sera intéressant de voir sa performance. Swinton qui n'a pas joué depuis longtemps avec Jacobs en deuxième ligne. Gazzotti donc en 6, tu l'as dit. Le jeune Romain Gardera en 7. Thémo Mathieu en 8. La charnière, c'est une ancienne charnière rochelaise, Rottière, Hugo Reuss. Donc Rayassi à une aile, Madoche Tamboué à l'autre, le jeune Adrien Drault avec Huberti au centre et Mousquès à l'arrière, les remplaçants Sa, Tofa, Beauchaton, Perchaud, Uto, Bonne, Laharag et Tameifuna.
Et Gabriel Bonne, première feuille en top 14, lui aussi, espoir de Bordeaux, qui est formé à Soyaux et qui va faire sa première feuille aussi.
C'est incroyable, en fait, il a vraiment beaucoup bossé.
Minutes, comme il fait d'habitude. Ouais, incroyable. Donc voilà, la performance des Bordelais qui sont sur de la confiance quand même maintenant, hein, quand on vient d'enchaîner tout ça. Ce sera intéressant, surtout face à des Rochelais qu'est-ce qu'ils vont nous proposer parce que capable de gagner à Castres, de s'incliner à Bayonne dans un match imperdable, en perdant justement Will Skelton aussi et pas mal d'autres blessés, Niniashvili, même si nos antennes rochelaises nous disent que Niniashvili est déjà à l'entraînement, il serait peut-être pas blessé si longtemps, cet homme est fait d'un autre bois.
Ce qu'il nous propose là, Wilfried, c'est une troisième ligne pour le coup incroyable.
En revanche,
quelques retours.
Ouais,
alors, l'équipe, on a Wardy qui va faire sa 250e, j'ai cru voir ça, ou 150e, attention à peu près.
150e.
Je vais
vérifier.
Continue, je regarde.
Ouais, voilà.
Continue.
On a bien bossé. On pouvait pas être partout, hein, Stade Toulouse. Hein,
ouais, non, mais Pierre a réussi à bosser sur tous les tableaux. Hein.
Mais il y a un anniversaire pour Wardy, en tout cas. Donc, Wardy, Latou, Féao en première ligne.
150e.
Samba avec Charles Kanté Samba avec Judy Kael Cancorier. Encore une deuxième ligne expérimentale, ça a été ça toute l'année. Et je pense que les recrues qui vont arriver, il le faut à La Rochelle en deuxième ligne, parce que c'est un poste en souffrance. Et enfin, cette troisième ligne internationale, Paul Boudéan de retour, Oscar Jégou de retour, Grégory Aldrit de retour. Ça a une autre gueule.
Tu m'étonnes.
Voilà. La charnière, Le Garec, Astoy. Au centre, Setoni, Laguivala. À une aile, Leeds. À l'autre aile, Noël. À l'arrière, Iaia West, qui va faire son troisième match donc avec les matchs de Champions, de Challenge Cup donc à l'arrière. Le banc des remplaçants, Lespio, Kadouri, Haddad, Bourgarit.
Alors ça.
Mais Bourgarit, attendez, du parce coup, que si on a Lespio et Bourgarit.
Ma troisième ligne, peut-être Bourgarit. Ça semble être la logique.
Bricolage. Avec Andy Timo, Thomas Bergeon, Diego Jurt qui enchaîne aussi sur le banc des remplaçants et Kuntelia en remplaçant pied droit.
T'as un des bancs les plus polyvalents parce que Bergeon il peut faire 9 ou ailier, Timo il peut faire 3ème ligne ou ailier, Bourgarit il peut faire 2 ou 6. On verra bien où il y a des besoins.
Non, je ne savais pas que Bourgarit pouvait faire 6.
Moi non plus, je ne savais pas. Mais apparemment, il peut.
C'est, comme disait Coluche, c'est nouveau, ça vient de sortir. Donc voilà.
C'est un peu la saison de La Rochelle. On expérimente. On voit.
Après les 8 premières lignes sur la feuille.
On va te faire rentrer troisième ligne, voilà, tu seras plus content. Vous êtes à voir. C'est une des curiosités de ce match, Pierre Bourgarit. Mais déjà, on est quand même content
de le voir,
qu'il revienne parce que ces derniers mois, ça a été très compliqué pour lui.
Pas que pour lui. Pour nous aussi.
Ouais, pleure pas non plus, Roxane. Elle a fait une tête.
Bon, vous aurez deviné que Roxane a des origines rochelaises.
Pas que moi. Éditeurs,
pas que pour lui.
Ah oui, Pierre aussi.
Pierre aussi, Rochelais. Ouais. Très bien, merci pour ces deux affiches à suivre. La Rochelle, UBB, c'est l'affiche en ouverture.
Un pronostic, Roxane ?
21e journée. Non, je pronostique pas sur La Rochelle.
La Rochelle. Moi, je pronostique La Rochelle.
D'accord. Moi, je pronostique. Un pronostic, Wilfried ?
Comme ça, soit j'ai raison et je suis heureux, soit j'ai tort et vous êtes triste.
La Rochelle, qui les voyait gagner à Castres, voyait après le carton rouge qu'ils perdent à Bayonne, et pourtant, donc la saison est incroyable.
Ouais. Voilà. Donc, match à suivre à 14h30 samedi. On termine avec vos joueurs à suivre, Wilfried.
Justement, on vient d'en parler. Enfin, c'est le troisième ligne Bourgarit, non pas du tout. C'est Hugo Reus. Hugo Reus qui revient à La Rochelle. Là, un peu tout est parti. Hein. C'était ses débuts. Il avait commencé le 25 mars 2023 lors d'un La Rochelle UBB. Hugo Reus, justement. Hugo Reus qui s'est un peu perdu.
Il a voyagé entre temps.
Vous êtes d'accord avec moi ? Non, mais il fait une première saison, il fait 15 matchs, 9 titularisations. Deuxième saison, il fait quand même en 23-24, c'est solide quoi. Il fait 15 titularisations quand même sur 20 et 25 matchs disputés. 173 points en 23-24 pour La Rochelle quoi. Donc. Ça a coincé, évidemment, comme d'autres, avec Ronan O'Gara. Parti au MHR, ça ne l'a pas fait. Parti à l'USAP, troisième club cette année, avec l'UBB. Et un temps de jeu qui s'est complètement réduit. Quoi, hein. On est 400, la grosse saison là, où je vous ai parlé, il fait 1135 minutes.
Là, il est doublure dont Dapileta à Perpignan. Quoi.
Voilà, donc il est descendu à 5 titularisations l'année dernière et 6 cette année. Donc je pense que pour Hugo Reus, qui est pas encore vieux, c'est pas ce que je veux dire, mais qui est encore jeune plutôt. Il a 22 ans. Il est un peu plus vieux que Jurd par exemple, qui est sur le banc La Rochelle. Mais il y en a certains, c'est maintenant faut y aller quoi. Quand je vois à 22 ans, c'est un Axel Despérez à Pau. J'ai cherché des stats.
Il a
fait 22 failles de match et 17 titularisations, 187 points. Si on compare, c'est pas le même profil de jeu, mais ils ont le même âge quoi. Ouais. Donc lui, comme tu dis, il y allait. Bon, il a profité de la
et il a eu sa chance. Ça aussi, c'est qu'il a été beaucoup critiqué au début et ils l'ont maintenu et il a progressé aussi.
Je ne suis pas sûr que Hugo Reus puisse piquer la place de Mathieu Jalibert, puisque maintenant il joue à l'UBB. Mais à un moment, voilà, la carrière, faut y aller pour pas être un espoir éternel et passer le cut. C'est plus facile de le faire moi dans mon siège comme ça de le dire. Je suis d'accord. mais voilà, Hugo Reus. Sélectionné chez les U20 et tout, c'était pas fin quand même, hein, son talent. Faut juste passer le cut. Maintenant.
Il en a parlé à Nicolas Paolorsi justement.
J'ai envie de poser les valises, de retrouver un peu de stabilité. Il y a eu beaucoup de choses qui ont fait à La Rochelle que ça peut être plus compliqué. Après le deuxième titre, il y a eu un peu plus de difficultés au sein du club et de l'équipe. Voilà, les performances, que ça soit individuelles ou collectives, ont été plus compliquées. Et notamment pour moi, individuelles ont été plus compliquées. Et après, on rentre dans une spirale négative. J'ai traîné ça pendant une bonne année jusqu'à arriver à Perpignan, où j'ai pu repartir un peu de zéro et rebondir. Je vois que vraiment comme une chance et une opportunité d'avoir énormément gagné en expérience. Maintenant, c'est à moi de rebondir et de faire le nécessaire pour performer ici à l'UBB.
Ouais, lui voit ça comme une chance. En même temps, il vaut mieux le prendre comme ça. J'imagine.
Oui. Bah...
oui.
Mais écoute.
Non, mais il a pu jouer quand même deux matchs de Champions Cup. Non, mais non. Il est au bon endroit. Enfin, je veux dire, il est à Bordeaux. C'est génial pour lui de te retrouver
ça
là
va,
par
oui.
rapport à être... comme je disais, doublure de Rudy Pileta à Perpignan.
Non, mais surtout Carberry va partir en plus.
Là, il a une place. Il y a une place à prendre en doublure de Jalibert pendant le tournoi de destination, pendant la tournée d'automne. Enfin, il y a un super poste.
Oui, il y a de la place.
Deuxième
piste
de Bordeaux. Voilà, il pense qu'il y a quelque chose à faire avec lui. Donc, voilà, à lui de jouer.
Pierre, quel est ton joueur à suivre ?
Eh ben, je reviens moi aussi sur cette Français Racing, en espérant qu'il joue, parce qu'on n'a pas les coupes officielles. Mais donc, je vous en parlais tout à l'heure, Mathis Thibault, l'arrière du Stade Français, qui est capitaine des espoirs depuis un moment au Stade Français, qui a joué quelques matchs avec le Stade Français, mais jamais titulaire en top 14. Il avait été envoyé au casse-pipe en Champions Cup l'année dernière, il y a deux ans, face aux Stormers, face aux Bulls, quand ils envoyaient des équipes très remaniées. Il était remplaçant à Toulouse cette année, où le Stade Français n'avait pas fait un mauvais match, et titulaire sur les quatre matchs de Challenge cette saison. Il devrait donc fêter sa première titularisation en équipe première. Petit format pour Mathis Thibault, 1m75 kg.
Ah oui.
Qui a quelques feuilles de match en équipe de France U20 aussi. Et on sait qu'au Stade Français, c'est Léo Barré qui a ce poste évidemment. Mais Joe Jonas derrière lui ne convainc pas et va repartir l'année prochaine. Donc lui aussi, comme Hugo Reus, peut-être un niveau moindre, parce que sans doute que deuxième 10 à Bordeaux, c'est un peu plus prestigieux que deuxième 15 au Stade Français, mais quand même, il y a une place à prendre, d'autant que Léo Barré est testé ces derniers temps un peu à l'ouverture, que voilà, il peut être polyvalent, il peut y avoir une place qui se libère en 15. Donc surveillez bien Mathis Thibault. Sur la pelouse synthétique de Paris La Défense Arena, il y a toujours des arrières rapides qui se révèlent, donc sans doute que lui pourra prendre un petit peu d'espace face à cette ligne de trois quarts un petit peu lourde du Racing 92.
Très bien, merci Pierre.
Quelle est cette alarme qui sonne?
Ouais, c'est moi.
C'est pas vos téléphones qui sonnent, ne vous inquiétez pas, c'est Wilfried.
Non, pardon.
Merci, messieurs, de m'avoir accompagné pour.
C'est l'alarme que c'est fini.
Cet apéro des poteaux. Merci à tous d'être toujours aussi nombreux à nous écouter chaque semaine.
Merci.
Vous connaissez la musique.
Merci dans vos voitures, dans vos footings,
au métro.
Dans le métro. Voilà, tous ceux qu'on croise et qui nous parlent du podcast, ça arrive. Il y en a. Voilà, on les remercie, Roxane. Et on continue. À lui dire, c'est vrai qu'on parle trop peu avec les gens comme ça qui sur Twitter, sur les plateformes qui nous mettent des messages. Faut qu'on réponde aussi.
On va réfléchir.
Ça nous fait plaisir quand vous mettez
des
messages.
Pour communiquer avec vous. Voilà. Vous connaissez la musique. En attendant, abonnez-vous. Comme ça, vous ne manquerez rien d'entre les poteaux. On a notamment des entretiens avec des joueurs à venir, dont un avec Bastien Chalureau qui est particulièrement émouvant. Donc à venir bientôt.
Oui.
Abonnez-vous, vous aurez la petite notification. Et il est très intéressant à écouter. Merci les gars. Passez un bon week-end.
Bon week-end.
Et puis à lundi pour un nouvel
bon
épisode d'Entre les poteaux. Ciao.